Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إن وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 1er Shahrivar, 1401 du calendrier iranien, 23 août 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. La victoire du Front de la Résistance en 2000 a mis fin au projet du Grand Israël, a déclaré Seyed Hassan Nasrallah. L'Iran va développer ses capacités militaires, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. La plupart des pays impliqués dans le plan global d'action conjoint acceptent la proposition de l'Union européenne, a déclaré Joseph Borrell. Et la tournée du ministre iranien des Affaires étrangères en Afrique. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Soulignant que les ennemis doivent savoir que l'Iran est déterminé à poursuivre la tendance actuelle au développement de ses réalisations en matière de défense militaire, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que l'Iran est plus fort que jamais et que les ennemis sont plus faibles que jamais. Déclarant que parfois des ennemis menacent l'Iran malgré les capacités de défense élevées du pays, il a ajouté « Ce qui a fait de nous une puissance influente dans la région et dans le monde, ce sont des forces efficaces, motivées et révolutionnaires. » Le président Raisi a souligné que les ennemis doivent savoir que l'Iran est déterminé à poursuivre la tendance actuelle à développer ses réalisations en matière de défense militaire, avertissant en outre que les puissances arrogantes seront chassées de la région et que la région reviendra aux nations indépendantes et en quête de liberté. Le haut diplomate de l'Union européenne, Joseph Borrell, a déclaré que la plupart des pays impliqués dans les négociations avec l'Iran étaient d'accord avec la proposition de l'Union européenne visant à sauver l'accord nucléaire de 2015 que les États-Unis ont unilatéralement abandonné en 2018, malgré le plein respect de l'Iran. La plupart d'entre eux sont d'accord, mais je n'ai toujours pas la réponse des États-Unis que j'attends cette semaine, a déclaré Borrell, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, dans une interview accordée à la chaîne de télévision nationale espagnole. Il s'est empressé d'ajouter que l'Iran a demandé quelques ajustements à la proposition de l'Union européenne qui n'a pas encore été rendue publique. L'Iran a soumis sa réponse au projet de proposition de l'Union européenne le 15 août, une semaine après la fin du dernier cycle de pourparlers à Vienne. Un jour plus tard, l'Union européenne a confirmé qu'elle avait reçu la réponse de l'Iran, affirmant que le bloc étudiait la réponse avec les parties à l'accord et les États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, est arrivé à Bamako, la capitale malienne, pour des entretiens de haut niveau avec les responsables du pays ouest-africain. Amir Abdullahian affirme que son déplacement s'inscrit dans la politique étrangère de Téhéran visant à améliorer ses relations tous azimuts avec les États africains. Le diplomate iranien est arrivé au Mali pour la première étape d'une mini-tournée en Afrique. Hossein Amir Abdullahian est à la tête d'une délégation politique et économique de haut rang. Il devrait s'entretenir avec le président et le ministre des Affaires étrangères du Mali. Amir Abdullahian a été accueilli par son homologue à son arrivée. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré à Abdullah Diop que l'Iran était déterminé à étendre ses relations avec la nation ouest-africaine. Il a ajouté que Téhéran avait des plans spéciaux pour accroître la coopération économique avec le Mali. Diop a pour sa part déclaré que cette visite était un signe de la volonté de l'Iran d'améliorer ses relations avec son pays. Amir Abdullahian se rendra plus tard en Tanzanie mercredi. La Turquie affirme qu'un dialogue est en cours entre les services de renseignement turcs et syriens, soulignant qu'Ankara ne considère aucune condition préalable à des pourparlers avec Damas. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, a toutefois déclaré que de telles discussions devraient être axées sur un objectif et sur les résultats. Il a également indiqué qu'Ankara n'a pas de conditions préalables au dialogue avec le gouvernement syrien. Pour le diplomate turc, le fait de débarrasser la Syrie des terroristes fait partie de ses objectifs. Ankara a récemment adouci son ton envers la Syrie. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a récemment affiché sa volonté de rétablir les liens avec Damas. Erdogan a affirmé que son pays ne peut pas couper totalement les relations diplomatiques avec la Syrie. Les deux pays n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis le début de la guerre contre la Syrie, après qu'Ankara ait soutenu les terroristes anti-Damas actifs en Syrie. Les partisans du religieux irakien Muqtada Sadr lancent un nouveau sitting devant le Conseil supérieur de la magistrature, ce qui pourrait prolonger l'impasse politique à laquelle est confronté l'Irak. Des manifestants portant des pancartes se sont rassemblés devant l'organe judiciaire de la capitale Bagdad, manière d'intensifier la pression afin qu'il dissolve le Parlement. Le 10 août, Sadr a donné au Conseil une semaine pour suspendre la législature et ouvrir la voie à de nouvelles élections. L'organisme a cependant rejeté la demande, arguant qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire. Les sadristes ont pris d'assaut le Parlement à deux reprises le mois dernier et y ont dressé des tentes. Pendant ce temps, le premier ministre intérimaire, Mustafa Al-Kazemi, a écourté sa visite en Égypte pour suivre l'évolution de la situation. Le secrétaire général du mouvement de résistance libanais du Hezbollah a déclaré que la victoire du front de résistance sur Israël en l'an 2000, qui a vu le régime d'occupation retirer ses forces du Liban, a mis fin au mythe de l'invincibilité du régime sioniste et au soi-disant projet du Grand Israël. Seyed Hassan Nasrallah a fait ses remarques alors qu'il s'adressait à une cérémonie tenue lundi soir à Beyrouth, la capitale libanaise, pour marquer le 40e anniversaire de la fondation du mouvement. La victoire en l'an 2000 a mis fin au soi-disant projet du Grand Israël et a brisé l'armée soi-disant invincible du régime d'occupation, a déclaré le leader du Hezbollah. Il a également salué la victoire du Hezbollah dans la guerre des 33 jours contre Israël en 2006 comme l'une de ses réalisations les plus importantes. Seyed Hassan Nasrallah a ajouté que le rôle du mouvement dans la revendication des droits du pays dans son différend avec Israël sur un gisement de gaz offshore est l'une des réalisations de la guerre des 33 jours. Nasrallah a déclaré que le mouvement ne céderait à aucune menace concernant la démarcation des frontières maritimes du Liban, qualifiant ces menaces d'inutiles. Il a ajouté « Notre décision et notre approche sont claires. Nous attendons les prochains jours pour prendre des décisions en fonction de ce qui se passe. » Le leader du mouvement Hezbollah a poursuivi en notant que le mouvement a maintenu des liens étroits avec tous les groupes de résistance en Palestine et continuera de le faire au cours des 40 prochaines années. Nasrallah a ensuite exprimé la ferme opposition du Hezbollah à la normalisation des relations de certains pays arabes avec le régime israélien, conseillant aux États de la région de ne pas normaliser les relations avec une entité qui a commis des crimes de guerre et des crimes contre le peuple palestinien. Tout le monde devrait aider la révolution du peuple palestinien. Nous avons également soutenu les réfugiés palestiniens et souligné leur droit à un retour digne en Palestine, a-t-il déclaré. Seyed Hassan Nasrallah a déclaré que la cause palestinienne faisait partie de la religion, de la culture, de l'honneur et de la dignité de la nation libanaise et qu'il n'y a aucune place pour abandonner cette cause de quelque manière que ce soit.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Vous regardez l'émission Le Débat, donc. Alors, Emmanuel Macron, le président français, a parlé aux Français en disant qu'il fallait qu'ils acceptaient de payer le prix de la liberté. Certainement, il faisait allusion aux possibles conséquences de la crise entre la Russie et l'Ukraine. De quelles conséquences on parle? Peut-être la pénurie du gaz naturel ou bien l'augmentation donc du prix du carburant ou tout simplement l'absence de chauffage pendant l'hiver pour les Français. En effet, la guerre a sonné aux portes des Français car un député français a même dit qu'il fallait qu'il consulte bien sûr le Parlement avant de parler de la liberté des Français et surtout de cette liberté. D'autres députés qui disent que bien sûr les Français doivent payer pour le prix de la mauvaise politique d'Emmanuel Macron et de ses prédécesseurs. Voilà. À présent, Je vous invite de regarder un reportage avant d'inviter les experts des questions politiques. À tout à l'heure.
Emmanuel Macron a demandé le 19 août aux Français d'accepter de payer le prix de leur liberté en référence aux possibles conséquences pour la France du conflit russo-ukrainien, notamment sur le volet énergétique. À l'occasion du 78e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas dans le Var, Emmanuel Macron a appelé les Français à regarder en face le temps qui vient. En référence aux possibles conséquences pour la France du conflit russo-ukrainien, notamment sur le volet énergétique. Je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs, a-t-il notamment déclaré, encourageant ainsi les Français à accepter une situation en partie liée aux mesures occidentales antérieures adoptées ces derniers mois par Paris. Dans les faits, les propos d'Emmanuel Macron font écho au risque d'une pénurie de gaz naturel qui plane en Europe en raison notamment de certaines annonces russes concernant des suspensions d'approvisionnement. Ainsi que le rapporte l'AFP, le géant pétrolier Gazprom a en effet annoncé le 19 août une interruption de ses livraisons à l'Europe durant 3 jours pour des raisons de maintenance. Pour rappel, l'entreprise russe avait déjà alerté début août sur le fait que les sanctions occidentales perturberaient le bon fonctionnement du gazoduc Nord Stream 1, alors que c'est à travers celui-ci qu'est actuellement acheminé le gaz russe en Europe, tandis que Nord Stream 2 a vu son autorisation de fonctionnement suspendue avant le lancement de l'opération militaire russe en Ukraine. En tout état de cause, l'appel du président français a fait réagir plusieurs personnalités politiques. Il a par exemple rapidement été salué au sein du parti présidentiel, à l'instar de l'eurodéputée Nathalie Loiseau, qui a félicité Emmanuel Macron pour parler aux Français le langage de la vérité et celui des valeurs. Une déclaration courageuse a pour sa part commenté le député MoDem Frédéric Petit. Mais simultanément, les propos du locataire de l'Élysée ont provoqué de vives critiques visant la politique française sur le dossier ukrainien. Macron évoque la guerre qui tonne à nos portes et nous appelle à accepter de payer le prix de la liberté. De quel droit ce petit chef avide de guerre décide-t-il sans consulter le Parlement de nous entraîner dans ce conflit ? A par exemple fustigé l'eurodéputé Gilbert Collard, président d'honneur de Reconquête. Étape de plus dans l'escalade très personnelle mais dangereuse pour tous les Français d'un président va-t-en-guerre incontrôlé. Et dire que le Parlement, avec son pouvoir de contrôle, a exceptionnellement été autorisé à ne reprendre ses travaux qu'en octobre, a réagi sur Twitter l'ancien maire de Rambouillet, le démocrate chrétien Jean-Frédéric Poisson.
Eh bien, voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Xavier Dupré, économiste depuis Bruxelles, qui a accepté notre invitation. Bonjour, M. Dupré.
Bonjour, merci à vous et salutations à tous vos auditeurs.
Tout le plaisir est pour nous. Un grand bonjour à M. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam depuis Suède. M. Ahmad Rami, bonjour. Voilà un débat qui est prometteur. Ma première question va s'adresser à M. Dupré depuis Bruxelles. Alors, vous avez certainement entendu ce reportage. Nous parlons bien sûr des possibles conséquences de la crise entre la Russie et l'Ukraine et la crainte du président français à cet égard. Et le président français demande aux Français de faire des sacrifices déjà avant que les conséquences donc, de cette guerre arrivent à la porte des Français. Que pensez-vous?
Ben, il est très clair aujourd'hui que le marché européen du gaz, parce que c'est ça dont il est question, hein, je veux dire, lorsque on s'adresse aux Français, il leur parle de leur facture énergétique. Il a tenté de mobiliser son électorat et par-delà la population française en parlant du prix des valeurs. C'est fort contestable, évidemment, parce que malgré tout, il reste dans nos démocraties qui sont toutes plus ou moins social-démocrates en Europe occidentale, une valeur politique fondamentale, c'est le droit de la population à disposer d'un certain bien-être économique, quand bien même des spéculateurs tireraient profit d'une situation de pénurie. Donc ça, c'est... Non, mais c'est vrai, il n'y a pas que les valeurs de liberté qui constituent le socle des sociétés d'Europe occidentale, mais aussi des valeurs d'égalitarisme économique et social. Par-delà, c'est très très clair. Aujourd'hui, on demande à toute une série de pays européens de continuer à fournir l'Allemagne parce que c'est là que se trouve le nœud gordien de la politique énergétique européenne. La dépendance, si vous voulez, de l'Union européenne prise pays par pays à l'égard de la Russie est fort variable. Par exemple, un pays comme la Belgique, les fournitures, l'approvisionnement en provenance de Russie, c'est 6% du total énergétique. Donc, vous voyez, une coupure est évidemment, serait évidemment un problème, mais ne serait pas un problème majeur. Pour l'Allemagne, c'est tout à fait différent. Là, on est sur vraisemblablement. La majorité du gaz consommé en Allemagne, que ce soit par les particuliers ou les industries, provient de Russie. Dans ces conditions, il existe un plan européen qui consiste quand même assez nettement à faire en sorte que les pays les moins dépendants de la Russie fournissent du gaz à l'industrie allemande, qui est le cœur économique, le poumon de l'Union européenne. Dans ces conditions, il est très très clair que la situation de pénurie qui est celle de l'Allemagne aujourd'hui, qui est tout à fait prévisible et constatable, va s'étendre, se répartir sur toute l'Europe occidentale. Dans ces conditions, il faut craindre évidemment des ruptures de fourniture de gaz, mais aussi, puisqu'une partie de l'électricité est produite par des centrales au gaz, eh bien, des ruptures dans l'approvisionnement de l'électricité. C'est à cela que nous prépare Emmanuel Macron. Il prépare sa population à cela. Je pense que c'est aussi une manière, quelque part, de ne pas pointer du doigt le rôle de toute une série de spéculateurs privés. Et quand on voit les chiffres de bénéfices de toute une série de compagnies énergétiques, on s'aperçoit que finalement, cette montée des prix a été une bonne affaire pour que très gros acteurs multinationaux. Et donc là, je pense qu'il y aura matière à contestation. Si vous voulez, il y aura pénurie, ça me semble, aujourd'hui, le rythme de remplissage des réserves de gaz en Allemagne, qui sont au plus bas pour cette période-ci de l'année. C'est-à-dire que les réserves de gaz devaient quasiment... Nous sommes quasiment au mois de septembre. Au mois de septembre, en Allemagne, les réserves de gaz étaient comblées à raison d'environ 70-75%. Aujourd'hui, on est très en dessous de cela. Donc, il y a bien une pénurie. En revanche, lorsqu'Emmanuel Macron devra annoncer aux Français que les pénuries sont là en plein hiver, qu'il y aura des difficultés dans certaines... dans certains foyers, peut-être même des hôpitaux, il faudra rationner le gaz, et bien à ce moment-là, il y aura une opposition qui pourra lutter, et c'est ça qui sera intéressant, qu'il aurait pu réguler davantage les prix.
Oui.
Et de ce fait, garantir une meilleure planification de la fourniture pour les ménages. Donc je pense que la contestation sociale sera forte lorsque les gens constateront dans leur quotidien, cette absence d'énergie.
Tout à fait.
Ça me semble tout à fait évident. On est parti pour ce type de scénario. Il y a un scénario, quelque part, de gilet jaune qui ne sera plus limité aux seules classes populaires, mais qui va toucher des classes moins importantes. Et toute l'Europe occidentale connaîtra
Absolument.
Des tensions relatives à cette problématique.
Tout à fait. J'aimerais beaucoup connaître l'opinion de M. Ahmad Rami qui est avec nous depuis Suède. M. Ahmad Rami, M. Xavier Dupré parle de fortes manifestations qui attendent donc le gouvernement français à cet égard. Le discours d'Emmanuel Macron a donné évidemment beaucoup de frissons aux Français. Certainement, il a parlé des conséquences, mais peut-être c'est des conséquences très graves, comme donc la déstabilisation du pays. Que pensez-vous?
Pour moi, en tant que musulman et arabe et fait partie aussi suédois, je pense que normalement, les mêmes règles de jeu internationalement doivent gérer la situation, c'est-à-dire toujours de penser à ce qui est juste, à ce qui est, valable pour tout le monde. Et pour moi, le seul critère maintenant qui peut divulguer la sincérité ou l'insincérité de discours politique, c'est la question palestinienne. Que pense en réalité Emmanuel Macron de la question palestinienne? Et que pense la Russie, Poutine, de la question palestinienne? Les deux reconnaissent l'occupation sioniste de la Palestine et sa légitimité. Donc, il y a dans le fond, dans les grands problèmes, c'est parce que c'est le plus grand problème mondial qui va décider de la paix juste ou de la guerre injuste dans le monde. Et dans ce domaine-là, dans la question palestinienne, parce que j'ai l'habitude de dire, même si Jésus retourne aujourd'hui, la seule question que pour voir si c'est un ami ou un ennemi à lui poser, c'est quelle est son opinion de la, est-ce qu'il reconnaît Israël ou non. Et la même chose maintenant, toutes ces discussions, c'est du bavardage, c'est seulement des mots. Parce que, comme j'ai dit, c'est un conflit maintenant qui est devenu entre la Russie et l'Occident, et la Russie et l'Occident, tous sont en réalité gérés par le lobby sioniste, que ce soit les États-Unis ou la Russie. Et puisqu'ils reconnaissent l'entité sioniste, l'occupation de la Palestine, c'est ce que maintenant la Russie fait aujourd'hui en Europe, c'est ce que Israël fait en Palestine. L'occupation injuste, c'est-à-dire c'est les frontières d'Israël, c'est là où ses chars, son armée peut arriver. Et aujourd'hui, Poutine dit aussi que c'est les frontières de la Russie, c'est là où c'est ce qu'il peut occuper, comme l'Israël. Tout ce que l'Israël peut occuper, même le Golan, c'est reconnu. Et tout le monde reconnaît Israël, qui occupe la Palestine, qui occupe le Golan, qui occupe une partie du Liban. Et maintenant, donc c'est de... Macron exerce en réalité la même chose en Afrique. Les mercenaires de Wagner soutiennent des régimes seulement contre l'argent, et Macron va aussi soutenir des régimes seulement pour des intérêts financiers. Donc il ne pense pas aux règles, ni à la justice, ni à la paix en dehors, quand il parle par exemple de la Palestine ou de l'Afrique. Ce sont seulement les intérêts financiers égoïstes qui gèrent. Donc, à mon avis, tout ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le discours de Macron. C'est pour continuer à tromper l'opinion mondiale, à tromper l'opinion française, parce que dès que vous lui posez à Macron ou à Poutine la question, est-ce qu'ils reconnaissent l'occupation sioniste en Palestine ou non, ils reconnaissent tous la question, l'occupation sioniste de la Palestine. Le reste, c'est du bavardinage, c'est de l'hypocrisie. Ils ont transformé l'hypocrisie à une nouvelle relation idéologique, relation politique idéologique.
Oui,
voilà.
Oui, tout à fait. Sachez, M. Xavier Dupré, que M. Ahmad Rami a consacré toute sa vie à la cause palestinienne et défendre la cause palestinienne. Donc c'est pour ça qu'il donne un rapport direct entre la crise entre la Russie et l'Ukraine et bien sûr le lobby sioniste et la question palestinienne. Pour vous, vous avez parlé beaucoup de chiffres tout à l'heure, mais j'aimerais qu'à présent, vous nous parliez du fait que beaucoup d'experts politiques pensent que Emmanuel Macron fait exactement ce qu'on lui dicte de la part des États-Unis et du lobby sioniste à l'égard, par exemple, de la crise entre la Russie et l'Ukraine, et peut-être dans l'avenir, cette pénurie du gaz que vous avez évoquée. Que pensez-vous?
Pour l'heure, il est très très clair que les États-Unis, qui ont beaucoup appuyé le gouvernement ukrainien dans ses revendications et ayant beaucoup participé à l'alimentation des tensions entre l'Ukraine et la Russie, eh bien aujourd'hui, on constate que les gouvernements d'Europe occidentale sont, passez-moi l'expression, au garde-à-vous devant l'OTAN, le parapluie militaire de l'OTAN, sont très très alignés, que ce soit sur la question palestinienne ou d'autres questions internationales. On voit bien par exemple que sur l'embargo injuste qui frappe Cuba, eh bien aujourd'hui les Européens qui autrefois avaient plutôt tendance à s'opposer aux États-Unis sur ce dossier, mais à ma foi aujourd'hui ils se font très discrets. Oui, c'est très clair. Aujourd'hui, il y a nettement un alignement des différents gouvernements d'Europe occidentale sur l'establishment, les positions de l'establishment états-unien. En témoigne notamment l'adhésion il y a peu de temps de la Norvège et de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Et on peut également aujourd'hui remarquer que le discours d'Emmanuel Macron n'est pas un discours qui vise à dire « trouvons une solution la plus harmonieuse possible de retour, notamment aux accords de Minsk, qui aurait permis éventuellement une coexistence plus ou moins harmonieuse, en tout cas organisée, entre la minorité russophone de l'Ukraine orientale et la population d'Ukraine occidentale. On n'est pas là-dessus. Il dit à la population française, à son peuple, nous allons aller jusqu'au bout d'une dynamique de confrontation et pour cela nous devons nous attendre à des rétorsions de la part de la Russie et nous allons devoir nous priver de gaz. Le discours qu'il a prononcé là est un discours de chef de guerre. Et il est entraîné dans cette guerre parce que de plus en plus, on le constate aujourd'hui, les États-Unis sont devenus la puissance dominante.
Monsieur Xavier Dupré, Monsieur Dupré, donc vous dites donc directement que la guerre a sonné à la porte donc de la France?
Non, je n'ai pas dit qu'elle avait sonné à la porte de la France. On est sur une guerre régionale et contenue. Ce qui est en revanche très clair, c'est que les conséquences d'une économie de guerre, qui est toujours une économie de privation et de pénurie, ça, Emmanuel Macron est prêt à l'accepter et à l'imposer à sa population. Ça, c'est déjà un discours de guerre, quelque part, puisqu'il dit à une population d'Europe occidentale, vous allez devoir, ici, maintenant, vous priver d'énergie. Or, l'énergie, c'est la vie. Il y a des gens qui mourront peut-être de froid cet hiver en France, dans leur appartement.
Monsieur
parce
Dupré,
qu'ils n'ont plus les moyens de payer
tout
les
à fait.
De gaz.
Xavier Dupré, est-ce que les Français, quant à eux, est-ce qu'ils sont prêts donc de se soumettre aux conséquences de la guerre en Ukraine?
Ce sera tout l'enjeu d'une conflictualité politique. Je n'ai pas de capacité à prédire l'avenir de cette façon-là. Ce que je peux dire en tout état de cause, c'est que vu la montée des inégalités en France, spécialement depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est beaucoup accéléré avec lui. Il y a eu la crise Covid, il y a maintenant cette crise de l'énergie. Eh bien, la conflictualité sociale et sociopolitique autour des thèmes de la redistribution, autour des thèmes de l'aide de l'État à sa population, tout cela va revenir sur le tapis. Donc il y aura forcément, à un moment donné, une montée de la conflictualité. Ce que j'ai dit aussi, c'est que les populations d'Europe occidentale sont devenues beaucoup plus analphabètes politiquement qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans. Ça, c'est très clair. Et donc, les gens sont finalement très attentifs, très court-termistes. Pour l'instant, les vacances se terminent. Ils ont entendu ce discours. Ils sont encore dans la torpeur de l'été et de la canicule. Donc, les réactions ne seront pas immédiates. La population va en parler, mais lorsque les premières mesures de privation et de pénurie, et le constat de pénurie se fera l'hiver, parce que là, pour le moment, personne n'a besoin de chauffage, c'est l'été. Là, à ce moment-là, ça commencera à neiger. Ça, ça me semble évident.
Monsieur Dupré, nous avons une forte impression que les Français ne sont pas prêts à vivre avec une pénurie. Depuis des décennies, donc, ils vivent tranquillement. Bien sûr, la qualité de la vie était bonne pour les Français, mais maintenant, d'un coup, est-ce qu'ils sont prêts d'accepter une pénurie de gaz naturel ? Ou pire encore ?
Je crois, en tout état de cause, qu'il y a une contradiction entre le discours d'Emmanuel Macron, qui est un discours de guerre, enfin, de, quelque part de justification de ces pénuries, avec... si vous voulez, l'état d'esprit d'une opinion publique qui a vécu dans une société d'abondance. Et globalement, si on compare à beaucoup de pays de la planète, oui, l'Europe occidentale reste une terre d'abondance. Donc dans ces conditions, il y aura des contradictions et Emmanuel Macron va tenter de plus en plus de discréditer ses adversaires en les taxant, et je pense notamment à tout le discours de stigmatisation de la France insoumise. On va être stigmatisé. Le camp politique qui sera le camp de la protestation sociale, c'est quand même le parti le plus proche des syndicats. Et donc, quelque part, les syndicats vont demander des augmentations salariales. Ils voudront que leur base sociale soit mieux traitée que cela. Et donc, ça se sentira à l'Assemblée. On verra de plus en plus Emmanuel Macron avoir recours à trois registres discursifs. Un, il va parler des valeurs de la France. Taxera ses adversaires de totalitaire, autoritaire, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Vous savez, la France insoumise, finalement, si je regarde le programme de la France insoumise aujourd'hui, je le compare à celui de François Mitterrand en 1981, c'est finalement moins à gauche qu'à l'époque. Il tentera cela et il va aussi tenter la carte de l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire qu'on va décrire tous les opposants à cette ligne politique d'appui relativement inconditionnelle aux États-Unis. On va être très vite taxé lorsqu'on critiquera Israël, lorsqu'il y aura des positions sur le port du voile dans l'administration publique ou dans les écoles. On va être taxé d'islamo-gauchiste, donc d'antisémite, donc
oui.
De nazi. C'est pas...
Tout à fait.
On sent bien cette chaîne-là. Elle est déjà bien déchaînée depuis le mois de juin, hein, lorsque la rentrée parlementaire se terminait, on sentait déjà bien que les accusations face au camp social de l'opposition à l'austérité et à la pénurie, eh bien, en fait, comportaient une part très forte de stigmatisation autour du thème de l'islam et de la tolérance à l'islam, voulais-je dire, et également de l'antisémitisme. Là, il y a une politique de stigmatisation. Je crois que c'est un jeu très dangereux auquel pourrait jouer le pouvoir en faisant cela, parce que cela pourrait mobiliser des pans entiers des banlieues des grandes villes en France, de cette partie-là du tissu urbain, contre le pouvoir.
Absolument. Monsieur Hamadrami, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, moi je pense que, puisque maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on prépare l'opinion publique à une troisième guerre mondiale. Hein. Et on sait que dans la deuxième guerre mondiale, tous les peuples, tous les pays ont perdu. Personne n'a gagné dans cette guerre, sauf Israël. Israël a été créé après cette guerre, au résultat de cette guerre. Donc la troisième guerre mondiale, comme on voit maintenant, on dit que les Juifs de Russie et d'Ukraine, en majorité maintenant, sont en train d'émigrer en Israël, c'est-à-dire le devoir juif de l'Aliya, le retour. Et donc, on va seulement renforcer parce que le président ukrainien est très ami avec Israël et les juifs sionistes. La majorité de son gouvernement, ce sont des sionistes pro-israéliens. Et aussi, le Macron et l'Occident, ils sont dominés aussi par le pouvoir sioniste.
Oui.
Donc, en réalité, c'est le même pouvoir, c'est une guerre en réalité orchestrée par le pouvoir sioniste et par Israël.
Oui. Monsieur Hamadrami, directeur de Radio Islam depuis Suède, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à monsieur Xavier Dupré, économiste, qui nous a accompagnés depuis Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
l'histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Dans la dernière émission, nous avons fait connaissance avec une entreprise iranienne basée sur le savoir. Dans ce programme, nous vous présenterons une autre de ces sociétés, à savoir l'entreprise de développement de revêtements industriels Mana Polymer. L'entreprise Mana Polymer a démarré son activité en 2016 en réalisant avec succès plusieurs projets industriels et spécialisés. Après une courte période d'activité de la société, son unité de production a commencé à fonctionner à l'appui de ses connaissances techniques dans le domaine de la production de produits polymères, y compris la peinture et le composite. Dans le domaine de la production, cette unité répondait d'abord aux besoins de l'équipe chargée de la réalisation des projets. Mais après un court laps de temps, cette unité de production a réussi à prendre une part de marché, à préparer et envoyer ses produits à des groupes de production dans d'autres entreprises. 2 ans après l'exploitation du groupe de production, l'unité commerciale de l'entreprise est entrée dans l'arène. Contentons-nous des besoins croissants de l'unité de production. Après identifiant des entreprises bien connues dans le domaine de la production des matières premières, le groupe s'est lancé dans l'importation de ces matières et à cet égard, l'excédent de consommation a également été vendu sur le marché. Dans toutes les étapes mentionnées, le groupe d'ingénieurs conseils monopolymères, quoique de manière restreinte, a fourni des services techniques et d'ingénierie à d'autres unités de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises actives dans ce domaine. À l'heure actuelle, la société Mana Polymer détient une part importante dans le domaine de fourniture des matières premières, de l'industrie de la peinture, la production de revêtements et de peintures spécialisées et fournit des services pratiques dans le domaine de la protection contre la corrosion et de la réparation et de la restauration des bétons dégradés. Des années d'activité et d'expérience dans des entreprises de fabrication de peintures et de revêtements industriels, des sociétés d'ingénierie conseil, des entreprises de mise en œuvre de revêtements de protection et des sociétés commerciales ont exhorté les dirigeants de Mana Polymer à établir une entreprise spécialisée pour résoudre les problèmes existants dans cette industrie. Les responsables de l'entreprise Mana Polymer, en s'appuyant sur une longue histoire dans l'industrie de la peinture et des revêtements industriels, l'industrie des composites, l'industrie du caoutchouc, estiment que grâce aux connaissances mondiales, à l'expérience iranienne et aux moyens disponibles dans le pays, on doit franchir le pas vers la solution des problèmes industriels dans le domaine de corrosion. De plus, Mana Polymer estime qu'en utilisant les outils disponibles dans le domaine de l'informatique, en combinant la technologie de l'information avec l'industrie de la protection contre la corrosion, il devrait y avoir une nouvelle façon d'augmenter la productivité, de mettre à jour les connaissances, d'utiliser une technologie mise à jour, de moderniser le mécanisme du marketing et de marcher pour atteindre une efficacité maximale en dépensant le minimum possible. Comme il a été mentionné au début, l'activité de production de la société Monopolymère répondait d'abord aux besoins du groupe de direction de l'entreprise, mais elle s'est progressivement développée dans la mesure où elle est aujourd'hui capable d'assurer les besoins d'autres entreprises. Les secteurs de production de l'entreprise fabriquent deux produits principaux, le matériau composite et la peinture industrielle. Chacun de ces secteurs produisent une variété de produits. Dans le secteur de production du matériau composite, l'entreprise produit des réservoirs composites, des chambres composites, des caillebotis et des panneaux composites. Monopolymère produit principalement différentes peintures et revêtements. Ces revêtements ont de nombreuses variétés qui sont utilisées dans différentes industries. La classification de ces revêtements peut être basée sur les industries dans lesquelles ils sont utilisés ou sur la base des peintures produites, par exemple les peintures de base bleue, les peintures à base de solvant ou sans solvant, les peintures protectrices et les peintures en poutre. L'unité commerciale de Monopolymère, formée peu après le groupe de production, a été créée afin de fournir les matières premières nécessaires au groupe de production. Elle s'est d'abord concentrée sur l'identification d'entreprises de premier plan produisant des matières premières de peinture, a procédé à l'achat de marchandises telles que la résine époxy auprès des entreprises européennes. Peu de temps après, certains des matériaux importés, en plus de répondre aux besoins du groupe de production, ont été mis en offre sur le marché. Ainsi, l'entreprise a pris une petite part de l'approvisionnement en matières premières d'autres sociétés. Monopolymère a progressivement développé ses activités, si bien qu'elle produit de nombreux articles tels que les résines, les pigments, les additifs, etc. Actuellement, Monopolymère est en mesure d'importer des produits spécialisés en coopération avec plusieurs entreprises à l'étranger. Par ailleurs, l'entreprise a réussi à exporter certains de ses produits, dont les revêtements de sol en résine époxy, de la peinture routière et de la peinture pour le marquage au sol routier, vers les pays de l'Asie centrale, y compris l'Azerbaïdjan, l'Arménie et d'autres pays. Actuellement, le groupe a concentré son activité sur les résines industrielles, les pigments, les additifs et mortiers résistants aux produits chimiques, les carreaux et céramiques résistants aux acides. La caractéristique la plus importante du groupe industriel est le lien avec des entreprises étrangères et la capacité de vendre des produits en monnaie iranienne et en devises étrangères. Au départ, la société Monopolymère a commencé à mettre en œuvre les revêtements industriels et en peu de temps, elle a réussi à réaliser plus d'une centaine d'autres projets. En fonction des besoins de ce secteur, d'autres secteurs ont été activés dans l'entreprise. Dans ce groupe, plusieurs activités sont réalisées, dont certaines des plus importantes sont la fabrication de revêtements de sol industriel, de polymères renforcés de fibres, des céramiques et des carreaux résistants aux acides, de l'isolation froide et de la chaleur, de la laine de roche et de la laine de verre. En outre, le groupe a eu des activités de haute qualité dans la mise en œuvre du projet de fabrication de revêtements spéciaux pour les lignes de peinture automobile, la mise en œuvre de revêtements ignifuges, la mise en œuvre de béton, béton dur et béton coloré. Parmi les autres projets exécutés par cette entreprise, on peut citer le remplissage des joints de béton et des joints de dilatation, les peintures pour façades de bâtiments et l'isolation des toits, l'étanchéité des piscines, des cages d'ascenseurs et d'autres opérations liées à la protection contre la corrosion, à la restauration, à la réparation du béton.
Thank you.